J'ai choisi de méditer ce psaume 121 qui est proposé à la lecture des églises aujourd'hui. Je l'ai décidé un peu comme une évidence en fait, parce que ce psaume a toujours accompagné ma route à vers les cimes. On levait les yeux vers les montagnes et on chantait ce psaume à longueur de camp, de colonie, sur une musique du groupe Pâturage. Ça ne nous rajeunit pas. Ce psaume 121 est aussi est souvent lu au moment des grands changements de la vie, parce que l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Voilà, ce sont des paroles qui sont là, inscrites dedans de nous. On le lit aussi à l'occasion des enterrements. C'est fréquent quand l'heure du dernier voyage a sonné. Et puis, alors ça c'est tout à fait étonnant, j'ai découvert que ce qui fait aussi la célébrité de ce psaume 121 dans l'histoire du protestantisme, c'est son verset 2 que j'ai surligné, parce que pendant 4 siècles, depuis Jean Calvin à Genève jusqu'au début du 19e siècle, eh bien le culte protestant s'ouvrait toujours par ce verset 2. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Vous imaginez 4 siècles de liturgie protestante commençant par ce verset. Magnifique confession de foi d'ailleurs, hein, qui est dite là. On croit en cette présence protectrice du Dieu créateur. Et c'est aussi la confession d'un Dieu qui sauve. Qui sauve par grâce, parce que, regardez bien, il n'est pas dit que le secours de Dieu est réservé aux seuls fidèles, à ceux qui marchent droit, mais à celui qui implore. Mon secours vient de l'Éternel. C'est tout ce qui nous est dit, c'est ce que dit cette confession, la grâce, le secours, le salut est donné, sans condition. Alors le premier verset, le tout premier verset nous renseigne sur le genre de psaume qui est sous nos yeux. Vous avez les lecteurs aguerris du livre des psaumes, de la Bible, on connaissent cette introduction qu'on voit sur un certain nombre de psaumes, cantique des montées ou des degrés. Vous avez vu ça, hein? Les Juifs chantaient ces psaumes des montées ou des degrés à l'occasion des pèlerinages à Jérusalem, lors des grandes fêtes religieuses. On montait à Jérusalem, on montait à Jérusalem de sa campagne, donc comme on monte à Paris aujourd'hui. Mais cette montée fait aussi référence à la montée vers le temple, une fois qu'on est à Jérusalem, parce que ce temple était construit sur une célèbre colline, le mont Sion. Et pour nous qui ne montons plus, donc ni à Jérusalem, ni au temple, pour prier, cette montée peut être encore aujourd'hui accueillie. Mais il faut pour cela l'interpréter, il faut pouvoir la comprendre comme une montée spirituelle vers Dieu, par la foi, au moyen de la prière, par le culte que nous rendons ensemble ce matin. Ces psaumes des montées sont au nombre de 15, qui sont là, les uns à la suite des autres, entre le psaume 120 et le psaume 134. Ils sont parmi les plus beaux de la Bible, du psautier. Et les Talmuds juifs disent qu'ils représentent les 15 marches qui séparait le parvis des femmes de la cour d'Israël, endroit réservé aux hommes. Et à chacune de ces marches, des marches d'ailleurs pas très hautes, hein, on dit qu'il y a 1,50 m entre les deux parvis de hauteur, à chacune des marches, eh bien, on s'arrêtait et l'on chantait l'un à la suite de l'autre ces cantiques, ces psaumes des montées. je trouve intéressant, faudrait prolonger ça sans doute, que cette séparation entre homme et femme ait déjà fait l'objet de prières implorantes, insistantes, comme si en laissant derrière nous les femmes, bien les hommes étaient amputés d'une part d'eux-mêmes, et comme si leur marche d'élévation vers Dieu était soudain ralentie. Vous voyez ? Bon, au royaume de Dieu, j'en suis sûr, il n'y aura plus de parvis séparateurs entre hommes et femmes, il n'y aura plus de marche à monter. Je laisse cette parenthèse aussi féministe qu'anachronique à votre méditation, mais gardons l'idée d'un parcours d'élévation vers Dieu, pour tous, entre ces marches, ces 15 marches. Ce parcours, cette montée, commence par une action très particulière, très belle, par une levée des regards. Vous avez vu ? Pour monter, pour s'élever, donc, la première chose à faire, c'est de lever les yeux. Lever les yeux, je trouve que c'est une attitude très noble, très digne, qui consiste à relever la tête et à regarder au loin. En levant les yeux, on cesse de se regarder le nombril. C'est automatique. Hein. On en finit avec le cercle infernal, l'auto-contemplation de soi ou de ses problèmes. Et on s'élève, on élève ses regards vers le lointain, vers le haut, vers le lieu finalement où on désire se rendre. En ce sens, on peut dire que le regard, l'élévation du regard est une aspiration de l'âme, pour employer une expression un peu désuète et que j'aime bien. Il nous met en route, il oriente, il équilibre aussi notre marche. Dans tous les sports, on vous apprend que la projection du regard vers l'avant va déterminer la qualité du mouvement que vous cherchez à réaliser. Hein. Que vous fassiez du ski, de la moto, de l'équitation, sans parler du tir à l'arc. Tout est dans le regard. Et Jésus le dira, l'œil est la lampe du corps. Vous connaissez hein, cette phrase de l'enseignement du Christ en Matthieu. Dans la vie spirituelle, la relation avec Dieu et la relation avec les autres commencent par le regard. Le regard du chrétien, on va dire que c'est sa foi. Le regard nous permet d'orienter notre esprit, nos pensées, d'orienter nos projets. Avant toute action, avant tout engagement, il faut porter nos regards. Alors vers qui, vers quoi nos regards sont-ils tournés ce matin? C'est de cette question que va dépendre tout le reste. Et c'est la première question que nous pose Somme ce matin. Nos regards sont-ils centrés sur nos peurs, sur nos besoins, sur les exigences de la vie qui nous écrasent, sur nos rancunes, sur nos ras-le-bol, sur les vacances, ou tout ce que vous voulez, peu importe. Mais, nos regards nous portent-ils déjà sur l'amitié, sur le pardon, sur la confiance, sur le service, oui, le don de soi. Nos regards sont-ils assombris par notre soif de nous-mêmes? Ou au contraire, sont-ils éclairés par le désir de rencontre? Voilà la question. Et c'est à chacun d'entre nous ce matin d'apporter une réponse à ce questionnement. Mais la question est là. Après l'acte d'élévation du regard, la question se pose. Et je suis, cette question et celle-ci, vous la lisez, d'où me viendra le secours. D'où me viendra le secours? On décrit souvent la foi chrétienne comme une réponse. Vous voyez, si tu as des problèmes, tu crois, tu pries, tu lis la Bible, et aussitôt, tous tes soucis vont disparaître. C'est simple, Christ est la réponse. Voilà, le message est net, clair et facile. Et moi, avec Snoopy, et surtout avec l'auteur du psaume, je crois que notre parcours avec Dieu commence non pas par des réponses toutes faites, mais par un questionnement profond. S'il n'y a pas de questionnement de soi, s'il n'y a pas de questionnement de Dieu, de la Bible, questionnement du monde qui nous entoure, eh bien, il n'y a aucune chance d'aller ailleurs que là où je me trouve déjà. Je reste planté dans mes certitudes. Pire, il n'y a aucun moyen de trouver du secours, puisque je ne pose pas de questions. Or ici, c'est une question qui est posée. D'où me viendra le secours? Que chacun s'interroge donc avec honnêteté. Y a-t-il en nous quelque chose de suffisamment sûr, de solide, capable de nous porter secours, de donner sens et appui à notre vie? Qu'est-ce qu'il y a dans mes ressources propres, dans mon éducation, dans mes valeurs, mes convictions, dans ma religion, dans mes relations? Qu'est-ce qu'il y a qui soit capable d'apaiser mes peurs, de libérer mon existence de l'absurde? Et puis on peut se questionner aussi sur ce mot. Qu'entend-on par ces mots? Secours, salut. Ce sont des mots d'une importance capitale dans la vie du croyant. Vous vous rendez compte que le nom même de notre Seigneur, Jésus, veut dire salut. Yeshua, en araméen, ça veut dire Dieu sauve. Ce Jésus que nous appelons notre Sauveur. Mais que signifient ces mots? De quoi sommes-nous sauvés? De la mort. Allez-vous me répondre peut-être? Oui, mais de quelle mort parle-t-on? Parce que nous allons tous passer un jour sur l'autre rive, n'est-ce pas? C'est une certitude. Alors, nous répondons que nous sommes sauvés de la mort intérieur, spirituel. Oui, c'est bien là l'enjeu du salut. Accueillir au cours de notre existence cette vie de Dieu, cette vie qui ne périt pas avec la mort physique. Accueillir une présence capable, ici et maintenant, de produire du sens par-dessus l'absurde, de produire une paix plus forte que les inquiétudes, plus forte que les épreuves de la vie, d'offrir une présence capable de déverser en nous une joie qui soit plus importante que nos échecs, que nos déceptions, que nos frustrations. J'aime aussi beaucoup cette parole de Jésus qui rencontre Zachée, vous souvenez de cette scène d'évangile, et qui dit « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Pour Zachée, il y a donc eu une vie avant, et il y aura une vie après le passage, la présence de Jésus dans sa maison, chez lui. Cette présence l'a sauvé. Et nous, ce matin, de quoi avons-nous besoin d'être sauvés? De quel secours vital avons-nous besoin? Je ne vais pas répondre à votre place. Il n'y a que vous qui pouvez savoir cela. C'est à chacun de répondre. Nos vies sont enfermées dans toutes sortes de réalités mortifères. Pour l'un, il faudra être sauvé d'un deuil qui n'a jamais été fait et qui a tué la joie, qui a tué la paix, le désir de vivre en lui. Pour l'autre, il faudra être sauvé de la violence, cette violence personnelle, intérieure, qui vous ronge, qui vous détruit et qui détruit vos relations. Pour un autre, il faudra être sauvé de cette peur d'exister soi-même, cette peur qui le pétrifie, qui l'empêche d'être libre dans le regard, de se présenter tel qu'il est devant les autres. Il y a plein de choses qui nécessitent cet appel. D'où viendra le secours? Les causes de nos morts intérieures sont nombreuses, diverses, complexes, pas toujours conscientes. Chacun connaît la sienne. Mais une chose est sûre et valable pour nous tous. Nous avons besoin de secours. Nous avons besoin de salut. Et une seconde chose est sûre pour tous, ce secours, ce salut ne vient pas de moi, ne vient pas de nous. Il nous vient de Dieu. Et Dieu met à ma disposition des aides efficaces pour me mettre en marche vers cette libération, cette guérison intérieure, vers ce salut dont j'ai besoin, dont je manque. Il me donne, eh bien, une parole vivante, celle que Pierre nous a lue ce matin, celle que nous lisons dans ce psaume, une parole vivante. Les mots de la parole de Dieu ont des vertus curatives, des vertus thérapeutiques, pour atteindre et repousser le mal qui est en moi. Mais Dieu ne me laisse pas tout seul avec cette parole. Il me donne des frères et des sœurs, des pasteurs, des enseignants avec qui je peux trouver, auprès de qui je peux trouver l'écoute et l'affection nécessaires pour faire route. Le secours me vient de Dieu dans la parole, dans la rencontre, dans la prière et dans la foi partagée. Il faut donc que je dépasse aussi le stade du questionnement, ce questionnement intérieur qui est indispensable mais qui n'est pas le but. Je dois m'ouvrir à la rencontre avec Dieu, je dois expérimenter ce secours, cette présence. Le questionnement, c'est un passage obligé, certes, mais ce n'est pas le but. Ne nous perdons pas dans un questionnement sans fin. Le but, c'est d'être secouru. Vous avez remarqué aussi que le regard s'est levé vers quelque chose en particulier. Vous avez vu vers quoi s'élève le regard ? Vers les montagnes. Alors certains pensent qu'il s'agit du mont Sion, du temple de Jérusalem, là où Dieu se révèle, là où Dieu donne rendez-vous à ses fidèles dans le temple de Jérusalem. Bon. Et par extension, nous qui n'allons plus au temple de Jérusalem, nous dirons que aujourd'hui, ben, ce sont les écritures bibliques, la prédication, la prière, la communion fraternelle, la communauté croyante, par lesquelles le secours de Dieu nous rejoint, nous l'avons dit. Mais il y a d'autres interprétations possibles pour ces montagnes. Ces montagnes vers lesquelles se porte le regard du pèlerin ou le regard du chrétien peuvent être aussi comprises comme des menaces, comme des montagnes de soucis, des montagnes d'égoïsme, des montagnes de souffrance, la montagne infranchissable de la peur de mourir ou de la peur de vivre. choisissez. Ce sont les montagnes, ces montagnes et ces collines dont le prophète Ésaïe annonce l'abaissement et la destruction pour aplanir le sentier de Dieu. C'est de tout cela que Dieu nous sauve, hein, de nos peurs, de cet égoïsme, etc. Et oui, ben il vient. Comme le Cantique des Cantiques le dit très joliment, il vient sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. De quelle montagne s'agit-il? Il y a une troisième possibilité, peut-être que vous en aurez d'autres, hein, à me confier dans les discussions qui peuvent suivre, mais j'en vois une troisième. Elle pourrait être ce qu'on appelait dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les hauts lieux. C'est-à-dire ces autels un peu sauvages qui étaient construits dans les montagnes et qui étaient des lieux où on y rendait des cultes idolâtres, des cultes pas clairs. On construisait ça en marge du culte officiel. Et Israël a eu beaucoup de mal à se libérer de ces cultes rendus dans les hauts lieux. Et on peut s'interroger, frères et sœurs, est-ce que nos regards sont libérés, autant qu'ils le prétendent, de ces croyances païennes, de ces superstitions religieuses, de ces fausses espérances? En levant son regard vers ces fausses espérances, eh bien, le psalmiste se met à douter. Vous voyez, là, on est dans une autre compréhension. Le secours me viendra-t-il de ces cultes-là? Et il finit par répondre, non. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Vous voyez, cette possibilité de compréhension qui est très forte aussi. Le secours me vient de Dieu seul, au diable, tout le reste. Alors, chers amis, nous faut-il choisir entre l'une ou l'autre de ces montagnes? Je ne crois pas. Chacun doit gravir la montagne qui est la sienne, actuellement. Peut-être d'ailleurs, en quelque temps, vous aurez changé de montagne. À certains moments de la vie, nos regards se portent vers la montagne de la foi. Notre marche est facile et sûre. Nous marchons main dans la main avec le Seigneur. C'est beau, c'est magnifique. Eh bien, bravo et c'est magnifique. Rien d'autre à dire. À d'autres moments, par contre, il nous faudra lutter contre la montagne du péché qui détruit nos vies et implorer le secours de Dieu. Il pourra aussi m'arriver de remplacer ma relation avec le Seigneur Jésus par de subtiles idolâtries. Là encore, il y a peut-être du ménage à faire. Chacun est renvoyé à sa propre foi et à son propre culte. Mais dans les trois cas de ces montagnes, le secours, la délivrance et le salut seront le fait du Dieu créateur et sauveur. Alors, pour terminer, je vous dirai oui, sœurs et frères, levez les yeux. C'est l'exhortation de ce psaume. Levez les yeux. Levons les yeux, sans quoi nous risquons de rester plantés dans nos peurs, dans nos échecs, nos certitudes, et même dans ce que nous considérons comme nos réussites. Ce n'est pas notre lieu. Notre lieu, c'est le salut. Notre lieu, c'est le secours de Dieu. Lui seul en a le secret. Lui seul détient les clés de notre salut. En Jésus. Il suffit.